Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois une icône de la mode, un grand esthète, un maître de l'élégance, un personnage mythique, Hubert de Givenchy. Bonjour Hubert.
Bonjour Viviane.
Vous êtes un personnage mythique, je l'ai dit. Merci d'être venu aujourd'hui au micro de Radio Cité Genève. On est tellement friands de vous poser des questions. On voudrait savoir comment tout ça a commencé. Quel petit garçon étiez-vous ?
D'abord, merci de me demander de faire partie de cette émission dont j'ai déjà entendu souvent parler. Le petit garçon, j'étais jamais très petit parce que j'ai une grande taille. Alors même petit, j'étais grand.
C'est vrai.
Mais voilà, j'ai eu des grands-parents merveilleux. Mon grand-père était un bon peintre, était administrateur des Gobelins et de Beauvais, les tapisseries de Beauvais. Donc je suis né à Beauvais en 1927, d'une mère délicieuse et d'un père qui s'occupait d'aviation et qui était passionné d'aviation.
C'était les débuts, là.
C'était le début de l'aviation. Mon père a rencontré ma mère au moment de la guerre de 14. Maman ne voulait pas rester à ne rien faire pendant la guerre de 14-18 et a supplié son père de rentrer à l'hôpital Jeanne Hachette à Beauvais, car elle avait trouvé que c'était d'abord son devoir, son frère étant au front, de faire quelque chose et de ne pas rester chez elle. Donc, matin et soir, maman partait accompagnée en petite voiture à cheval au lycée Jeanne Hachette, transformé en hôpital. Et à la fin de la guerre, en 18, maman rencontrait mon père, qui est devenu mon père, qui avait été blessé. Et il a demandé maman en mariage, et ils se sont mariés.
Et alors vous, petit enfant, vous êtes né à Beauvais?
Je suis né à Beauvais.
En classe, à l'école?
Oui, j'ai été en classe au lycée Félix Faure de Beauvais. Et puis, nous habitions pendant de nombreuses années chez la sœur de maman, qui avait des intérêts, sa famille à Beauvais, qui avait une très grande maison. Et la sœur de maman avait 10 enfants. Donc
oui.
J'avais beaucoup de cousines et beaucoup de cousins.
C'était très gai, ça.
C'était très gai. Oui. Nous étions une famille très unie. Et puis, les années ont passé. Petit à petit, malheureusement, la guerre est arrivée.
Avant d'aller à l'autre guerre, Hubert, est-ce qu'enfant, vous aviez déjà des prédispositions pour la mode? Est-ce que vous étiez intéressé par ce que portait votre maman?
Tout à fait. J'étais intéressé de voir d'abord ma mère était très belle et s'habillait bien, mais ne s'habillait pas dans les maisons de couture. Mais je la suivais et j'essayais de lui donner des conseils, ce qui l'énervait beaucoup. Et me disait, pense à autre chose, j'ai pas besoin de ton avis. Mais j'allais tout de même choisir des tissus dans les grands magasins et j'essayais de lui donner mon avis, mais ça ne marchait pas toujours. Mais très jeune, comme j'avais, je vous ai dit, de nombreuses cousines, chacune avait une machine à coudre, se faisait leur robe. Et c'est comme ça qu'un petit peu l'intérêt m'a pris de s'intéresser, non pas aux machines à coudre de mes cousines, mais je regardais leur magazine de mode dans lequel elles choisissaient un modèle et qu'elles exécutaient elles-mêmes. Alors je regardais derrière leur machine et derrière leur dos ce qu'elles allaient se faire. Et je donnais mon avis, ce qui les énervait, forcément.
Décidément.
Et elle me disait, écoute, va jouer au tennis, fiche-nous la paix, on n'a pas besoin de ton avis. Mais dans ces magazines de mode, il y avait des photos, bien entendu, et il y avait des modèles de Balenciaga, et c'était mes favoris. Je regardais les journaux, donc, et à chaque fois que je tombais sur une photo d'un modèle de Balenciaga, j'étais admiratif. Et je disais, mon Dieu, que cet homme a du talent, c'est différent des autres. Il y a une architecture, une sobriété, une élégance, un chapeau fantastique. Et en plus, j'avais cette grand-mère adorable qui avait des grandes collections de tissus. Mon grand-père, dont je vous ai parlé, était un grand collectionneur. Il achetait des costumes, il achetait des échantillons de tissus. Donc vous voyez, j'avais déjà de quoi penser, de quoi à me diriger, dirais-je.
Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous aviez une quinzaine d'années?
Oh ou... non, j'étais beaucoup plus jeune.
Beaucoup
j'avais
plus
7,
jeune.
7-8 ans.
Ah oui, 7-8 ans.
Et alors quand j'avais des bonnes notes au collège, j'avais le droit à une demi-heure, suivant mes notes, ou une demi-heure ou une heure de vue sur des tissus. On ouvrait des placards qui étaient remplis de chefs-d'œuvre, je dirais, pour moi. Et je regardais aussi bien des costumes que des échantillons de broderie, que des morceaux de tissu. Parce qu'il était passionné, ce grand-père était passionné de tissus et de documents.
Mais alors il les achetait, il les conservait par
pur plaisir. Ah non, il était comme il achetait
plaisir.
Des meubles. Il achetait des costumes et il voulait que toute la famille pose pour des portraits qu'il faisait dans ses costumes. Il y avait aussi bien des costumes empire que des costumes croates, que des coiffures de la forêt noire. Enfin, je ne peux pas vous dire, c'était...
C'était comme un magasin de déguisement.
Oh, c'était fantastique ce qu'il avait possédé, mais c'était tellement varié, vous voyez.
Mon cher Hubert, on va écouter un peu de musique, puisque ce sont des chansons essentiellement que vous avez choisies. Et puis on va reprendre tout à l'heure parce que c'est passionnant.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Radio Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire priseur.
Je suis avec Hubert de Givenchy. On a dit tout à l'heure un personnage mythique, mais c'est bien le cas. Un grand esthète, un maître de l'élégance qui, déjà enfant, nous venons de le voir, était passionné par la beauté, l'élégance, les tissus. Mon cher Hubert, vous étiez déjà plongé dans tout ça à 7-8 ans. C'est étrange. C'est rare.
Je ne sais pas si c'est rare, mais c'était une passion. Et je pense qu'une passion, il faut qu'elle vous arrive dans la vie jeune, pour petit à petit que cette passion se développe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est à force d'admirer les catalogues de mes cousines, d'admirer le travail de M. Balenciaga, j'ai décidé de prendre le train. J'avais 9 ans, 10 ans, et sans rien dire à ma mère, j'ai dit « je vais à Paris ». Et je veux apporter des dessins auprès de M. Balenciaga pour qu'il me reçoive, bien sûr, d'abord, et qu'il me dise si ça vaut la peine de continuer dans cette voie ou si je dois penser à faire du notariat ou être homme de loi, ce que ma famille me destinait.
C'était sensiblement différent.
C'était pas tout à fait la même chose.
Non.
J'ai donc pris le train à Beauvais, sans rien dire. Je suis arrivé à Paris, avenue Georges V. J'ai pris l'ascenseur, que j'ai connu par la suite, bien sûr, parce qu'il était déjà installé dans la maison de couture Balenciaga. Et je suis arrivé. Et l'émerveillement que vous pouvez penser pour moi, c'est l'atmosphère d'une maison de couture. D'abord, le parfum, qui était dans les salons. Et les vendeuses qui s'interpellaient, voilà, la duchesse Windsor arrive pour ses essayages, soyez prêtes, ceci, cela. C'était plein d'émotions. Et bien sûr, mademoiselle Renée, la directrice, robe noire, collier de perles, m'a reçu, m'a dit, mais jeune homme, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, madame, je voudrais revoir, connaître M. Balenciaga et lui montrer mes dessins. Alors un peu sèchement, parce qu'elle n'était pas commode. Et elle m'a dit, mais monsieur, jeune homme, monsieur Balenciaga ne reçoit jamais personne. Ben, c'était mieux comme ça, parce que d'abord, je pense que mes croquis étaient inintéressants. Je les avais encore regardés dans le train. Je me dis, mais tu es fou d'aller montrer ça. Ça ne veut rien dire, ça ne servira à rien. Ça m'a servi à rien. J'ai repris mon train, je suis revenu à Beauvais. J'ai jamais dit à maman que j'étais venu à Paris.
Vous aviez fait cette escapade.
Cette escapade d'une journée. Et la chose tout de même assez extraordinaire, c'est, nous en parlerons plus tard, c'est beaucoup d'années après, donc j'ai oublié, si vous voulez, les Balenciaga, mais j'avais toujours le même désir de faire de la couture, et j'ai dit, je vais apprendre à travailler chez un autre couturier. Et c'est ce qui s'est passé. Par des amis, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas rencontrer Jacques Fatt, qui était le couturier à la mode de l'époque? Jacques Fatt avait travaillé pendant toute la guerre, et c'était le grand succès à cette époque. Et je suis allé rencontrer Jacques Fatt, j'ai eu une lettre de recommandation.
Et là, vous aviez quel âge alors, Hubert ?
J'avais 17 ans.
17 ans.
Et je travaillais aux Beaux-Arts, je ne voulais pas du tout m'occuper de droit. J'ai travaillé pendant un certain temps dans une étude rue Saint-Lazare, où on me faisait ranger des dossiers. Et des dossiers inintéressants, parce que d'abord, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Fatt. Alors, je pris rendez-vous avec des carnets de croquis sous le bras. Et j'ai attendu dans la maison de couture de nouveau des parfums enivrants, de nouveau des mannequins qui allaient et qui venaient en peignoir pour aller présenter des robes aux clientes. Et j'attends, au bout d'une heure, toujours personne, l'angoisse. Vous imaginez, je me dis, voilà, ben tant pis, peut-être que... Et plus je pensais à mes dessins, plus j'étais inquiet, en disant, mais non, tu n'es pas prêt. Et je suis allé voir la réceptionniste en lui disant, puisqu'il y avait tout de même une heure que j'attendais, que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, ou un prétexte. Et j'allais partir, et peut-être qu'il aurait changé le destin de ma vie. Je descends l'escalier, Jacques Fatt montait l'escalier en s'excusant. Alors Jacques Fatt, un personnage, je dirais, très extraordinaire, jodhpour en flanelle grise, manteau de loup presque à terre, cheveux blonds, et s'excuse et me dit, je crois que vous m'attendiez. Je lui dis, oui monsieur, mais c'est pas grave. Et nous montons dans son bureau, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je voudrais rentrer dans une maison de couture pour apprendre, je ne sais rien. Et il me dit très gentiment, ben, écoutez, j'ai une dessinatrice qui s'appelle Dolores Carda, qui était mariée avec Pierre Sabag, de la télévision Femme Charmante.
La télévision française.
Et elle était espagnole, non, mais elle était absolument charmante. Et je suis rentré chez Fatt. Et alors avant de quitter M. Fatt, je lui dis, mais à quelle heure, monsieur, je dois être présent? Et comme je suis protestant et que les protestants avaient une éducation, à telle heure, il faut se lever, à telle heure, il faut faire son lit, à telle heure, enfin, assez rigide, je pensais arriver vers les 8h30 au bureau, dans l'atelier, enfin, dans le studio. Et je lui dis, monsieur, est-ce que je dois venir à 8h, 8h30? Je me dis, mais non, pas question, venez à 11h. Et ça me rendait malade de dire, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 11h sans rentrer chez Fat? Enfin, je me suis arrangé pour venir plus tôt, grâce à cette gentille Dolores. Et là, j'ai appris, si vous voulez, surtout à relever les collections.
Qu'est-ce que c'est que relever les collections?
Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas toute cette technique de photos, d'impression. On faisait monter le mannequin après les collections, dans la robe qu'elle avait portée, et on faisait un dessin, un lavis. J'ai appris à passer les couleurs comme ça. On mettait un échantillon sur le dessin, et on conservait dans les livres qui représentaient telle année, telle année, telle année. Puis, bien sûr, je n'avais pas que ça à faire. Je suivais les essayages et je regardais la création de la collection ou les personnes qui présentaient, les fournisseurs qui présentaient des collections aussi bien de fleurs, de tissus. Donc j'étais debout derrière M. Fass à regarder tout ce qui passait. Ce qui était une bonne éducation, si vous voulez.
Vous êtes resté combien de temps chez Fat?
Alors là, je suis resté un an, parce que je dois vous dire que j'avais un salaire très peu important, et qu'après la guerre, je devais gagner ma vie et aider ma mère, et j'avais besoin vraiment de... Je serais resté chez Fat toute ma vie, si j'avais pu, parce que c'était une ambiance, une gaieté, une amitié... C'était formidable. Mais j'avais besoin vraiment aussi de travailler d'une façon, je dirais. Puis je pense aussi que c'était intéressant de voir autre chose, de faire une autre école.
Sûr. Avant de passer à l'autre école et à autre chose, si vous voulez bien, Hubert, on va écouter à nouveau l'une des musiques que vous nous avez choisies.
Oui.
Et puis on reprendra tout à l'heure.
Avec joie. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Hubert de Givenchy, un personnage mythique, un maître de l'élégance qui nous raconte ses débuts dans la vie professionnelle. Nous sommes chez Jacques Fatt que vous allez donc quitter, mon cher Hubert, et pour aller dans quelle direction ?
Donc j'ai quitté Jacques Fatt avec regret et je suis allé d'abord me présenter chez Robert Piguet, autre grand couturier, mais couturier établi, et qui avait déjà une maison très importante. Et je ne suis pas allé parce que Piguet était protestant, mais en tout cas, ma mère a trouvé que c'était beaucoup mieux de travailler chez un couturier protestant qu'un couturier d'une autre religion. Mais parce que c'est la seule de la famille qui, dans le fond, avait accepté que je fasse ce métier, merveilleux métier. Bon, je vais me présenter chez Piguet, qui m'engage, et qui cherchait un dessinateur. Donc j'avais un petit peu plus de connaissances, mais pas grand-chose. Mais Piguet était une maison, je dirais, assise, bien assise. À cette époque-là, ce qui était intéressant, d'abord la maison était au rond-point des Champs-Élysées. Et la chose amusante, c'est quand je passais en autobus avec ma mère, je regardais ce rond-point où il y avait la maison Piguet. Et je disais, si un jour j'ai une maison de couture, c'est là où je voudrais m'installer. J'ai jamais pensé, bien sûr, qu'un jour je rentrerais aux Champs-Élysées, au rond-point, et travailler auprès de M. Piguet. M. Piguet était suisse, grand, très élégant, charmant, timide par sa grandeur. Il me disait d'ailleurs, ça ne vous gêne pas d'être aussi grand, parce qu'on était presque aussi grand l'un que l'autre. Je dis donc, monsieur, je me suis habitué à ma taille.
Vous avez, redites-nous, Hubert, quelle est votre taille ?
2 mètres 1.
2 mètres 1, oui, c'est impressionnant.
Alors lui n'était peut-être pas aussi grand, mais c'était quelqu'un, il posait des questions, mais ça ne vous gêne pas de prendre le métro ? Je dis donc, monsieur, j'ai trouvé un système, quand je descends en biais, comme ça je me cogne pas la tête. Donc vous posez des questions qui étaient assez curieuses, dirais-je.
Vous êtes resté combien de temps chez Piguet ?
Je suis resté, alors là c'est vraiment une histoire extraordinaire que je vais vous raconter. Je rentre chez Piguet, maison extraordinaire d'organisation, comme les banques suisses. Et il y avait donc toute une cabine de mannequins, tout ça c'était réglé, je dirais, comme un morceau de musique. Et à cette époque-là, ce qui était déjà fascinant, on habillait la cour d'Égypte. Donc toute la cour d'Égypte, avant l'Arabie Saoudite et les autres grands pays où beaucoup de clients s'habillent maintenant, nous avions la princesse Fazia, nous avions la reine d'Égypte, nous avions toute une clientèle fascinante et toutes ces ravissantes princesses venaient et les collections partaient en Égypte. Mais il y avait d'autres personnages que j'aimerais nommer, la duchesse d'Ayen, qui était une dame remarquable de la famille de Noailles, qui était un peu, pas la conseillère, mais M. Piguet avait une grande confiance dans son élégance et je devais montrer mes croquis à la duchesse d'Ayen, qui me disait toujours oui. On se mettait dans un petit salon d'essayage et là, je lui montrais « Oui, Hubert, c'est bien, non, ça c'est très bien, enfin bon, aucun souci de ce côté-là. » Et M. Piguet, absolument charmant. Mais il y avait, donc je descendais de temps en temps à la cabine des mannequins pour un peu changer l'atmosphère de mon bureau et il y avait un mannequin charmante qui était la fille d'un général russe qui s'appelait Billy Bibikov. Et Billy, je ne sais pas, avait plus d'amitié pour moi, où nous parlions plus souvent ensemble. Et Billy me dit, vous savez, Hubert, il y a quelqu'un qui voudrait absolument vous connaître, c'est Christian Dior. Christian Dior avait été modéliste chez Piguet, était parti ensuite chez Lelong, où il avait travaillé à côté de Pierre Balmain. Monsieur Dior est à ce moment-là, personne ne le savait, commandité par Monsieur Boussac. Donc c'était bien avant que Dior s'installe. Je disais à Billy, qui insistait, mais Billy, moi j'habite du côté de Neuilly, Monsieur Dior habite rue Royale, j'ai pas le temps, etc. Puis, je savais pas du tout qui était Monsieur Dior, mais c'est pas pour la question. Et elle insistait. Puis un beau jour, elle me dit, tu sais, Christian Dior voudrait te connaître, va le voir, c'est pas grand-chose. Je suis donc parti rue Royale, monté les escaliers car il habitait au 6e étage, attendu dans son salon, et j'ai entendu la porte qui s'ouvrait, et tout à coup, devant moi, Monsieur Dior, essoufflé, parce qu'il avait monté les 6 étages, et il s'excuse d'être en retard, et il me dit, voilà, j'ai vu ce que vous avez fait chez Piguet, j'ai travaillé moi-même chez Piguet, ensuite chez Lelong, et je voudrais vous dire que je prépare, vous le savez peut-être, l'ouverture de ma maison de couture grâce à M. Boussac, qui est mon financier. Et quand la maison ouvrira, j'aurais aimé avoir un assistant. Et si ça vous intéresse, allez chez Lelong, où vous allez avoir des très très bonnes premières, des techniciennes extraordinaires. Restez chez Lelong, et le moment où j'ouvre ma maison, venez travailler avec moi. C'était tentant, comme vous pouvez le penser. Et je dis, pourquoi pas, je suis très heureux chez Piguet, mais tout de même, on parlait déjà de l'ouverture de sa maison, avenue Montaigne. Et donc, je trouve un prétexte, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Je n'aimais pas prendre cette décision. Il fallait... Monsieur Lelong insistait pour que je vienne, puisqu'on lui avait parlé de moi. Et... j'annonce à M. Piguet que je dois le quitter pour une raison ou une autre, et qu'un jour après, je rentre chez Lelong. Chez Lelong, c'était une énorme maison de couture, car pensez qu'à cette époque, la guerre était passée, il y avait 2000 ouvrières.
On parle de quelle année, là, à peu près ?
C'était, écoutez, moi je suis rentré, c'était en 47. Imaginez, 2000 ouvrières. Alors, en effet, c'était la grande boîte. Ça n'avait pas le charme de Fat, ça n'avait pas, je dirais, le côté Robert Piguet feutré et d'une maison, mais c'était une très, très grande affaire, grande maison. Et il y avait M. Lelong, sa fille, Nicole Lelong, qui travaillait, une directrice, et deux autres modélistes qui étaient déjà là, qui se demandaient pourquoi M. Lelong allait prendre... après Balmain, après M. Dior, encore un nouveau dessinateur.
Cette fois-ci, M. Givenchy. Mon cher Hubert, on va s'arrêter un petit peu pour écouter de la musique, toujours la musique que vous nous avez choisie, et on reprendra tout à l'heure, si vous voulez bien.
Thank you.
Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec Hubert de Givenchy. Hubert de Givenchy, maître de l'élégance, grand esthète, un personnage mythique, vous le savez, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Alors Hubert, vous êtes donc maintenant à la veille d'avoir encore une autre expérience avant de monter votre propre maison. Chez qui allez-vous ?
Donc je rentre chez Le Long. Et chez Le Long, je dois dire qu'au bout de 6 mois, je ne me plaisais pas. J'ai donc quitté Le Long, et à ce moment-là, il fallait que j'attende que la maison Dior puisse s'ouvrir pour rejoindre M. Dior comme c'était convenu. Et à ce moment-là, je demande à René Gruot,
le fameux affichiste.
L'affichiste et un grand ami, qu'est-ce qu'il me conseillerait de faire en attendant les quelques mois encore avant de revenir, de joindre M. Dior. Et il me dit, écoute, Schiaparelli vient de revenir, c'était tout de suite après la guerre.
Une femme, hein, Schiaparelli.
Madame Schiaparelli, voilà, grande créatrice, ou Chanel, qui avait fermé sa maison pendant 14 années. Et Chanel était rentrée, mais n'avait pas rouvert sa maison. René Gruot, italien, téléphone à Madame Schiaparelli, italienne, rendez-vous pris. Je vais place Vendôme rencontrer Madame Schiaparelli, qui m'engage, et je ne vais pas lui dire que je vais rester un an ou 6 mois. Je dis, au moins, je serai auprès d'une grande créatrice. C'est ce qui se passe. J'arrive chez Schiaparelli avec, je dirais, pour moi, Schiaparelli représentait le chic. Elle avait été très influencée par le surréaliste. Elle avait travaillé avec aussi bien Dali, qui lui a dessiné ses flacons de parfum, Giacometti, Jean-Michel Franck. Enfin, finalement, je rentre chez Scap, atmosphère sympathique, où il y avait Maxime de la Falaise, la mère de Loulou, il y avait Françoise Bagenot, qui est devenue Françoise de la Rentra, une princesse russe, la princesse Magalov, et enfin, tout un groupe, et ça, très bonne ambiance, et Madame Schiaparelli, personnage très intéressant.
Ah, vous restez jusqu'à quand, là ?
Alors, je reste 4 ans.
4 ans.
Parce que, c'est pas ça, mais entre Schiaparelli, la mode avait changé entre l'époque du surréaliste où elle a eu ce grand succès, et puis l'époque où elle est revenue après la guerre, où Schiaparelli, c'était plus du tout ce que les clientes attendaient.
Qu'est-ce que les clientes attendaient à cette époque-là ?
Ben, la guerre avait changé beaucoup de choses. Schiaparelli a lancé les paddings.
Et les paddings, c'est-à-dire les renforcements d'épaules.
Elle a modernisé, après Chanel, qui avait eu beaucoup de succès. Schiaparelli arrive avec ce côté un peu extravagant, dynamique, lance les paddings, tailleur classique avec des boutons bijoux dessinés par Schlumberger, etc., etc. Et alors, les clientes qui sont revenues après la guerre voulaient retrouver toujours le même petit tailleur, très épaulé. Elle avait, dans le fond, révolutionné la mode. Je reste, elle me demande de m'occuper de la boutique, je m'occupe de la boutique et je commence à faire des separates et d'utiliser des grandes jupes, des blouses en coton, des tas de choses, des bijoux. Un peu ce que Loulou de la Falaise a fait par la suite.
Pour Yves Saint-Laurent.
Pour Saint-Laurent. Et au bout de 4 ans, au lieu de rentrer chez Dior, je l'avais déjà prévenu avant, déjeune avec M. Dior pour lui dire que j'ai changé d'avis et j'ai envie d'ouvrir ma propre maison. Et il me dit, c'est courageux, parce qu'à ce moment-là, j'avais 24 ans. Et il dit, comment ouvrir une maison de couture à l'âge de 24 ans? Je dis, ben écoutez, je vais essayer. Il ne m'en a pas voulu. Nous sommes restés très bons amis. Et j'ai donc cherché des capitaux. Ces capitaux, c'était très difficile parce que tous les amis vous disent, on va t'aider, on va faire ceci. Et finalement, c'est une cousine à moi, Hélène Bouilloux-Lafont, qui, par sa famille, m'a aidé. Et nous avons ouvert la maison de couture rue Alfred de Vigny, où j'ai commencé à faire des
sets. Je crois que c'est en 1953, c'est ça, Hubert ?
52. Donc, j'engage Bettina, la fameuse Bettina Graziadi, qui malheureusement vient de nous quitter récemment, comme attachée de presse. Elle connaissait, elle avait fait tellement de photos dans tous les journaux que je pense que c'était une bonne chose. Elle connaissait la presse de tous les magazines. Bettina m'aide à lancer la maison et je présente des separates, blouses, jupes, pantalons, enfin, une autre formule pour s'habiller d'une façon différente. Mais la presse, je crois, aime la collection, mais me dit, mais quelle idée de faire des separates, faites de la couture comme tout le monde et abandonnez votre idée de la blouse, le pantalon, le cardigan, etc. Et donc, j'ouvre ma maison de couture, je décide, un an après, de me mettre à faire de la couture, mais je continue tout de même avec une boutique à faire des separates.
Alors, je crois que c'est en 1953 que vous faites une très grande rencontre qui a beaucoup compté dans votre vie.
En effet. D'abord, avant de rencontrer cette merveilleuse rencontre, j'habille Jackie Kennedy, qui était à ce moment-là journaliste, qui est devenue la femme du président des États-Unis, qui m'a fait confiance, et donc elle a commencé à s'habiller, et on l'a habillée pour son premier voyage auprès du général de Gaulle, où, tout en secret, parce qu'il fallait que ça soit secret, on lui a fait toutes ses robes pour son voyage officiel. Et elle est restée cliente, et un beau jour, Gladys de Segonzac me téléphone pour m'annoncer qu'elle vient avec Miss Hepburn me rencontrer. Miss Hepburn veut me voir pour un film. Hepburn, je dis Catherine Hepburn pour moi. J'admirais Catherine Hepburn, que je trouvais avec un chic fou, une élégance. Et Gladys arrive avec une Hepburn, mais ce n'était pas celle que je pensais rencontrer.
C'était donc Audrey Hepburn. On va écoutez à nouveau un peu de musique, Hubert, avant de parler de cette merveilleuse personne sur laquelle d'ailleurs vous avez écrit un livre. On va en parler tout à l'heure et on écoute les musiques que vous choisissez.
Strange dear, but true dear, when I'm close. Stars fill the sky, so in love with you am I. Even without you, my arms fold about you. Deceive me.
Cité Genève, Viviane Juteau. L'œil du commissaire-priseur.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Hubert de Givenchy, grand maître de l'élégance, grand esthète, qui vient de rencontrer Audrey Hepburn. Racontez-nous cette rencontre, Hubert.
Alors juste avant, je voulais faire une parenthèse, Viviane. C'est avant de quitter Schiaparelli, un jour, un beau garçon charmant qui s'appelle Philippe Benet vient se présenter pour comme styliste. Il arrivait de Lyon et il cherchait un job à Paris. Son idée, c'était de rentrer chez Balenciaga. Et on lui a dit que chez Schiaparelli, Madame Schiaparelli cherchait quelqu'un aussi pour s'occuper surtout du tailleur et des manteaux et des choses comme ça, ce qui était sa
spécialité.
Voilà. Et donc, je rencontre Philippe. Philippe, je le présente à Madame Schiaparelli, qui l'engage tout de suite. Et mon idée, c'était déjà de quitter Schiaparelli. Donc, j'ouvre ma maison, je rencontre Audrey, comme nous venons de dire, et Audrey, la porte s'ouvre, Gladys de Segonzac me présente Miss Audrey Hepburn. Un petit peu déçu dans un sens, mais séduit par la beauté des yeux magnifiques d'Audrey, qui me demande de l'habiller pour son prochain film qu'elle était venue, qui s'appelait Sabrina, et elle m'explique le nombre de costumes qu'elle a besoin. Et à ce moment-là, j'avais peu de personnel et j'étais en train de faire une collection. Et je dis, mademoiselle, je suis désolé, mais je ne peux pas vous habiller, étant donné que je n'ai pas les mains suffisantes pour pouvoir vous faire vos robes rapidement, parce que c'était toujours comme ça dans le cinéma. Donc, elle est désolée, et je lui dis, écoutez, non, je suis vraiment désolé, malgré que j'étais tout de même tenté. Et elle me dit, qu'est-ce que vous faites ce soir? On pourrait dîner ensemble. Un peu estomaqué de cette question et de cette offre, qui était tout de même allégeante, elle me dit, écoute, on m'a parlé d'un restaurant, la Fontaine de Grenelle, retrouvez-nous à telle heure et nous continuerons nos conversations. Je vais à la Fontaine de Grenelle la retrouver, et pendant ce dîner, elle me dit, écoutez, trouvez une solution, vous m'avez montré quelques modèles ce matin de votre prochaine collection, on l'avait d'ailleurs essayé, tout lui allait, je veux dire, comme un gant, vu ses proportions merveilleuses. Et je réfléchis, et heureusement, je lui dis, écoutez, revenez demain, on va essayer les modèles de nouveau, on va tâcher de trouver des personnes qui peuvent nous faire les choses qui vous sont manquantes, et on a donc commencé à travailler. Et on a fait les robes de Sabrina.
Et vous avez fait bien d'autres films, puisqu'après, elle s'est exclusivement habillée chez vous, Hubert.
Et alors, j'ai fait les robes pour Sabrina, et c'est pas moi qui ai reçu l'Oscar, c'est Edith Head qui a reçu l'Oscar à ma place. Ça a rendu Audrey furieuse, qui a dit, mais c'est pas possible, c'est toi qui m'habille, c'est vous qui m'habillez dans ce film, et c'est vous qui ne recevez pas l'Oscar. La loyauté d'Audrey et sa générosité a dit, mais voilà, dans mes contrats, j'exigerai, dans tous les films contemporains, que ce soit qui m'habille. Et donc, comment dirais-je, le bonheur a commencé l'amitié, et chaque fois que ça soit ces films, Charade, Two for the Road, Funny Face, je l'ai habillé.
Alors, Hubert, je voudrais venir à ce livre merveilleux que vous avez écrit, To Audrey with Love. C'est un grand livre de couleur rouge fuchsia, et à l'intérieur, vous avez fait beaucoup de dessins.
J'ai fait 280 dessins. Et c'est, voilà comment c'est arrivé. J'ai eu un problème de santé. Ce problème de santé m'a tenu à la maison et j'ai pensé faire... Vous savez, Audrey est présente continuellement dans ma pensée. Je n'exagère pas parce qu'elle est, c'est une personne présente. Elle est moderne déjà dans son personnage. Elle est belle. Elle est absolument exceptionnelle dans ce qu'elle a fait dans sa vie. Et j'ai pensé, tiens, il est temps de communiquer avec elle, non seulement par des prières ou par des pensées. Je vais faire un livre. Et comme dans ce livre où je dis simplement qu'elle a tellement aimé les robes, elle les a portées mieux que quiconque, que je lui ai dédié un livre où je pouvais, bien sûr, y dessiner les robes principales que j'avais créées pour elle et pour ses films, mais aussi, bien entendu, mettre des clientes, que ce soit l'impératrice d'Iran ou la princesse Grace de Monaco ou des amis, de faire un bon livre dans des couleurs qu'elle aimait. Et voilà.
Alors, ce rose fuchsia est effectivement très brillant, très, très gai, très heureux. Et quand on feuillette ce joli livre, à l'intérieur, on a justement une sorte de parfum d'années envolées, d'années de grande élégance, d'années où on privilégiait quand même beaucoup certaines valeurs qui peut-être aujourd'hui sont un peu oubliées. C'est formidable ce livre, on ne peut que le recommander à tous nos auditeurs. Où est-ce qu'il est édité, Hubert ?
C'était l'édition, et les éditions Imagine.
Oui.
Le livre est vendu chez Galignani et
à Paris, mais on le trouve à Genève, j'imagine.
C'est obligatoire, des signatures. On en a fait une chez Christie's, parce que Christie's m'a donné l'endroit pour pouvoir les dédicacer. Et là, nous allons bientôt partir à Monaco pour justement faire une signature. Une autre est prévue à Christie's.
Est-ce qu'on vous verra à Genève aussi, Hubert?
Ça a été prévu, mais ça va être mis. Mais ensuite, il y a Londres chez Christie's. Et nous sommes en pourparlers aux États-Unis avec Tiffany, ce qui serait un bon rapprochement.
Tiffany, donc le créateur de bijoux.
Voilà, où elle a fait ce film Breakfast at Tiffany, dont je l'ai habillé, ou éventuellement chez Bergdorf Goodman, qui est un grand magasin qui m'a donné ma chance à mes débuts. Et je trouve que c'était normal de leur donner la possibilité, puisqu'ils m'invitaient, et c'est leur intention, de venir faire une signature à New York chez eux.
Hubert, on arrive au terme de cette émission qui est beaucoup trop courte parce que vos souvenirs sont extraordinaires, vos souvenirs retracent toute une période. On a été bien sûr très vite sur toute votre carrière. Il faut dire aussi que vous avez été à un moment, vous avez été l'un des directeurs de la maison Christie's. Vous êtes un grand esthète, un grand amateur d'art. Un mot sur cette vie formidable que vous avez eue. J'imagine que vous en êtes fier.
J'en suis heureux parce que j'ai accompli un rêve d'enfant. Et ce rêve, c'est pas facile, vous savez, la couture. Et il y avait beaucoup de difficultés, mais une grande volonté, j'allais pas baisser les bras. Et j'avais dit à maman, quand elle m'avait dit que tu te lances dans un métier, tu prends tes responsabilités, j'avais dit, maman, je te promets que je ne changerai pas, c'est ma vie.
Oui, c'est votre destin.
Et donc, c'est mon destin. Et après, maman est venue m'embrasser tant qu'elle a pu. À chaque collection, elle était la première à venir m'embrasser. Le moment où elle ne pouvait plus le faire, c'est moi qui allais la voir pour lui dire comment les choses s'étaient passées.
Une très belle vie, Hubert, une très grande réussite. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, vous êtes une icône pas seulement de la mode. Vous êtes un personnage mythique, un grand maître des élégances, un grand esthète. Merci d'être venu au micro de Radio Cité Genève. J'espère que vous viendrez quand même signer à Genève ce merveilleux livre dont je reparle, To Audrey with Love, Hubert de Givenchy. Il faut que nos auditeurs l'achètent et le regardent. C'est tout le parfum d'un passé, pas si lointain mais merveilleux. Merci Hubert.
Merci Viviane, merci de m'avoir invité.
À bientôt.
À bientôt.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style, someday, old dream maker. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off
such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon. And me,
and